RFI, 5h30, à Paris, 4h30 en temps universel. Une demi-heure d'actualité africaine avec vous, Sébastien Duhamel. Bonjour Sébastien.
Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous.
Et cela débute dans l'est de la RDC.
Avec l'avancée de l'AFC M23 qui se poursuit, ces éléments ont pris le contrôle dimanche d'une localité sur le territoire de Massissi au nord Kivu. Le risque d'une nouvelle guerre civile est bel et bien réel. Au Soudan du Sud, nouvelle alerte qui émane de l'International Crisis Group. Cette tension pourrait être une conséquence de la guerre qui déchire le Soudan voisin. Une promesse de développement pour Majunga sur la côte ouest de Madagascar, la promesse en grande pompe du gouvernement et du président malgache. Mais s'agit-il d'un simple effet d'annonce? Certains locaux semblent le penser, vous l'entendrez. Le Kenya sera-t-il prêt pour les rendez-vous qu'il a pris avec le foot international, le CHAN en août, la CAN l'an prochain, mais sur place à Nairobi, l'auditrice générale kenyane dénonce une gabegie dans la réfection des stades. C'était un vrai séisme sanitaire. Il y a 5 ans, l'OMS déclarait la pandémie de Covid-19, on s'en souvient tous bien sûr. Un drame qui mettait en lumière le besoin de développer la souveraineté vaccinale du continent. Où en est-on aujourd'hui? On fera le point ensemble. L'odeur de la poudre tout d'abord qui persiste dans l'est de la RDC et l'AFC M23 qui poursuit donc son avancée avec toujours le soutien du Rwanda. Ces hommes se sont emparés au terme de 4 jours de combat de Nyabiondo sur le territoire de Massissi. Nous sommes ici à une centaine de kilomètres à l'ouest de Goma, le chef-lieu du Nord Kivu. Nouvelle percée donc qui dégage désormais le chemin vers Walikale, patient Ligodi. La pression s'accentue encore un peu plus sur l'armée congolaise.
Ces 4 derniers jours, l'AFCM 23 a consolidé son emprise sur le territoire de Massissi. Après la prise de Nyabiondo dimanche, ces groupes soutenus par le Rwanda pourraient poursuivre son avancée vers Kachebere. Cet axe mène directement à Walikale Centre, encore sous le contrôle des forces armées congolaises. Kachebere se trouve à environ 120 km de Walikale Centre. Si cette localité venait à tomber, l'AFCM 23 pourrait alors accéder à la route nationale numéro 3, un corridor qui relie Walikale à Kisangani. Face à cette menace, les autorités congolaises assurent avoir renforcé la sécurité sur cet axe pour contenir la progression des rebelles. Dans le sud Kivu, la situation est différente. Le front de Kamanyola qui donne sur Uvira s'est stabilisé depuis 2 semaines. C'est à Uvira que le gouvernement provincial du sud Kivu s'est replié après la chute de Bukavu. Mais les affrontements se poursuivent plus au sud, notamment dans la chefferie des Kaziba, dans le territoire de Walungu, à plus de 50 km de Bukavu. Ici, les forces armées congolaises et le groupe Wazalendo tentent de contenir l'avancée de l'AFCM 23. Enfin, dans le Nord Kivu, un développement majeur s'est produit dans le territoire de Lubero. Dimanche, le général autoproclamé Kasereka Kassiano, qui dirigeait l'un des groupes Wazalendo, a annoncé son ralliement à l'AFC M23. Sur ces fronts, selon l'armée congolaise, un militaire rwandais a été capturé et 4 combattants de l'AFC M23 s'y sont rendus.
Le récit de Patient Ligodi. Et dans ce contexte, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs a rencontré hier le président Tshisekedi. Entretien avant une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies prévue le 4 avril prochain sur la situation en RDC. Kinshasa, où les cadres du PPRD, le parti de l'ex-président Kabila, étaient par ailleurs entendus pendant plusieurs heures hier. Ils étaient invités, ces cadres du PPRD, à éclairer la justice sur des soupçons de collusion avec l'AFC M23, ce que les intéressés démentent, mais rien n'a filtré pour l'heure de ces auditions. Aucune déclaration.
Un pays
au bord d'une nouvelle guerre à grande échelle après des semaines de tensions et de combats. Ce pays, c'est le Soudan du Sud, alerte cette fois de l'International Crisis Group. Le cas de la base militaire de Nasir interpelle particulièrement, conquise par une milice Neuer, proche du vice-président Riek Machar, opposé au président Salva Kiir. S'en est suivie une série d'arrestations de partisans de Riek Machar, ordonnées par le chef de l'État, et malgré un appel au calme, la guerre civile menace à nouveau selon l'ICG. Et cette situation pourrait être un dégât collatéral du conflit voisin qui sévit au Soudan, Paul Lorgerie.
Selon le rapport de l'ICG, la tension est à son comble dans la capitale Djouba. Depuis quelques semaines, le Soudan du Sud est le théâtre de recomposition politique qui risque de faire voler en éclats l'accord de paix de 2018. La faute à la guerre au Soudan et plus particulièrement à la coupure de l'oléoduc servant à exporter le pétrole sud-soudanais vers Port-Soudan, selon Daniel Akesh, analyste au sein de l'ICG spécialisé sur le Soudan du Sud.
La donne a récemment changé car, depuis un an, les revenus liés au pétrole se sont effondrés en raison de la guerre au Soudan. Il est donc devenu difficile pour le gouvernement de verser les salaires. C'est ce qui marque le début du problème.
Coupé de sa principale source de fonds qui servait son réseau clientéliste et donc la stabilité de son gouvernement, Salva Kiir s'est récemment rapproché du général Emeti, chef des FSR, s'éloignant ainsi du général Al-Burhan à la tête de l'armée soudanaise. Cette dernière, elle, aurait réactivé d'anciennes connexions avec des milices Nuer affiliées à Riek Machar. Un cocktail qui a donné lieu le 4 mars dernier à la prise d'une base militaire dans la ville de Nasir par la White Army, alliée de Riek Machar, dont beaucoup de sympathisants ont été arrêtés par la suite. Si le vice-président est resté calme pour le moment, Daniel Akesh prévient que des milices qui lui sont restées fidèles se tiennent non loin de la capitale sud-soudanaise.
Paul Lorgerie, RFI, 7h passées de 35 minutes à Majinga, cette cité balnéaire de la côte ouest de Madagascar sur laquelle les projecteurs se sont braqués la semaine dernière car elle a accueilli un conseil des ministres malgaches exceptionnellement délocalisé sur place, l'occasion pour la présidence d'annoncer dans la foulée une multitude de projets de développement pour cette ville qui est aujourd'hui dans le besoin, une ville longtemps déconsidérée quelque peu par le pouvoir central. Cependant, Sarah Teto, les locaux ont accueilli ces annonces de façon mitigée avec un enthousiasme modéré, dirons-nous.
Construction de deux centrales solaires, dont l'une qui sera opérationnelle sous 3 mois, promet Andra Zoeln, forage, modernisation du port, réhabilitation complète de la RN4, l'unique route reliant Majinga à la capitale, réfection des principales artères de la ville. À l'écoute de toutes ces annonces, Thiori, étudiant, s'est d'abord réjoui.
Moi, je mets 1h30 pour parcourir les 9 kilomètres qui me séparent de l'université parce qu'il y a plein d'embouteillages à cause des trous. Les routes en ville sont en très mauvais état, des routes réparées, de la lumière partout, tout le temps, ce sont des bonnes nouvelles, parce qu'ici on se sent un peu oublié puisqu'on n'est pas de la capitale. Mais est-ce que ces promesses vont être tenues? Ici, les gens ne croient plus trop aux promesses du président.
Chez les opérateurs économiques, pas d'euphorie, bien que le besoin en infrastructures et en énergie soit immense. Pourtant, aucun groupement d'entreprises n'a souhaité réagir officiellement à ces annonces. Trop risquées, nous rétorque-t-on. Cet entrepreneur a accepté de s'exprimer à l'unique condition que sa voix soit modifiée.
Ce sont des effets d'annonce pour endormir la population, pour faire du favoritisme sur certaines personnes, certaines sociétés, tout le monde le sait, personne ne le cache, mais personne ne le dit. La liberté de parole n'existe plus à Madagascar.
Qu'importe les critiques, l'ordre a été donné d'agir vite. Le chef de l'État a imposé un délai de quelques mois à ses ministres pour concrétiser ses projets.
Mais cette question à présent sur RFI, le Kenya sera-t-il prêt ? Le pays accueillera normalement le CHAN de football en août prochain, aux côtés de la Tanzanie et de l'Ouganda, la CAN l'année prochaine. Mais pour l'heure, la réfection de plusieurs stades inquiète sur place l'auditrice générale. Dans son dernier rapport publié cette semaine, Nancy Gatungu pointe en effet des irrégularités qui concernent notamment les infrastructures de la capitale, Nairobi. Situation préoccupante, Gaëlle Alex.
C'est une véritable gabegie que révèle l'auditrice générale dans son dernier rapport. Elle concerne plusieurs stades notoires de Nairobi, comme l'ancien City Stadium, rebaptisé aujourd'hui Stade Jokadenge, temple du football kényan. Cette infrastructure n'a pas accueilli de compétition majeure depuis près de 10 ans. Sa réfection est lancée en août 2023, mais un an et demi plus tard, le projet est au point mort, d'après l'auditrice générale. Le constructeur a abandonné le chantier, après avoir perçu néanmoins la moitié des frais engagés, soit 41 millions de shilling, plus de 290 000 euros. Autre sujet de préoccupation, le stade de Dandora. Sa réfection a coûté 223 millions de shillings kényans, plus d'1,5 million d'euros. Malgré cela, sur place, l'auditrice générale a trouvé des projecteurs défectueux, aucun système d'éclairage intérieur et un terrain en pente avec des nids de poules. Les deux grands stades qui devront accueillir les compétitions de la CAF ne sont pas mentionnés dans le rapport, mais le Kenya avait promis une amélioration globale de ses infrastructures, dont notamment des terrains d'entraînement. En janvier, la CAF a annoncé le report du CHAN de février à août 2025, faute d'infrastructures aux standards internationaux. Gaëlle Alex, Nairobi, RFI.
Cela a fait trembler la terre entière. C'était il y a 5 ans, le 11 mars 2020. L'Organisation mondiale de la santé considérait l'épidémie de Covid-19 comme une pandémie. À l'occasion de cet anniversaire, on se penche sur RFI sur la production de vaccins en Afrique, car la pandémie a mis en lumière la dépendance à l'extérieur du continent, puisque il ne produit qu'1% des doses administrées. L'Union africaine s'est donné pour objectif de développer l'industrie locale afin que 60% des vaccins soient produits sur place d'ici 2040. En 2021, il y a 4 ans maintenant, un centre de transfert de la technologie d'ARN messager a été lancé dans la ville du Cap en Afrique du Sud. en partenariat avec entre autres l'OMS. Cela pourrait aider les pays en développement à créer leur vaccin de A à Z. Alors, où en est-on ? Claire Bargelès.
Le centre a créé sa propre version du vaccin à ARN messager contre le Covid-19. Il n'a pas vocation à être commercialisé puisque la pandémie est passée. Il sert en fait de base d'apprentissage pour transmettre la technologie à d'autres pays. Mais pour le chercheur Patrick Arbuthnot, qui a travaillé sur le développement de ce hub, une fois que les connaissances sont acquises, il reste encore des obstacles.
Le gros problème, c'est d'arriver à se conformer aux exigences réglementaires. C'est une chose de développer un vaccin à ARN dans un laboratoire, mais c'en est une autre de créer un produit qui respecte les normes afin d'être utilisé sur des humains. C'est une étape plus compliquée.
Pour le continent, le Sénégal a déjà pu bénéficier du transfert de technologie. La Tunisie est actuellement formée et l'Égypte, le Kenya et le Nigeria devraient bientôt y avoir accès. Mais ensuite, la production doit être économiquement viable, comme l'explique Petro Terre Blanche. Elle est à la tête de l'entreprise Afrigène qui pilote le projet depuis le Cap.
Nous avons besoin que nos propres gouvernements mettent en place des politiques industrielles pour se fournir localement. Et nous avons aussi besoin d'instruments de financement mixte afin de développer un ensemble de vaccins. Même si certains présentent de faibles marges, ils sont essentiels pour bâtir les connaissances, les compétences et maintenir les installations.
Afrigène mène désormais des études pour de possibles vaccins contre la tuberculose ou encore la fièvre de la vallée du Rift. Mais l'arrêt des aides américaines pourrait avoir des conséquences sur les recherches autour d'un vaccin contre le VIH. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Johannesburg, où il est 6h, passé de 41 minutes, 5h41, ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI.
Restez avec nous bien sûr sur la radio du monde. Dans un petit peu plus de 12 minutes, le retour de l'actualité internationale. Mais nous, on retournera d'abord à Maïdougouri, car il faut terminer notre série de reportages là-bas au Nigeria sur la reconstruction et la résilience des habitants de la capitale.